vous êtes un petit peu surpris de ne pas avoir le chant habituel entre la première partie et la prédication. Mais c'est vrai que je me suis permis hier de passer un petit coup de fil à Onésime en lui disant que je risquais d'être un peu long. Alors je vous avertis aussi, mais vous aurez peut-être une bonne surprise. Je suis un peu moins long que ce que j'avais prévu. Merci Onésime. Je voudrais lire avec vous dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, quelques versets. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Je me propose ce matin de parcourir avec vous, à grandes enjambées, tout le plan de Dieu depuis la Genèse jusqu'à la fin du Nouveau Testament concernant un sujet, celui de la loi. La loi. Les mots employés en hébreu la Torah, en grec nomos. Le mot loi désigne un enseignement donné par Dieu aux hommes pour régler leur conduite. Il s'applique avant tout, ce mot, à l'ensemble législatif transmis par Moïse, au cœur duquel, bien sûr, le décalogue constitue la pièce maîtresse. Le Nouveau Testament appelle la loi toute l'économie dont cette législation était l'architecture. Et cela par opposition au régime de la grâce inauguré par Jésus-Christ. Nous avons donc deux régimes, le régime de la loi et le régime de la grâce. Cependant, le Nouveau Testament parle aussi de la loi du Christ. De là la distinction entre les deux testaments en les nommant loi ancienne et loi nouvelle. Pour être complet sur ce panorama, pour recouvrir l'ensemble de l'histoire du salut, il faut encore mentionner l'existence d'un régime de loi naturelle, entre guillemets, rattaché à la conscience pour tous les hommes qui ont vécu ou vivent en marge des deux régimes précédents. Donc nous avons trois régimes: la loi naturelle, le régime de la loi ancienne et le régime de la loi nouvelle. Nous allons donc maintenant regarder jusqu'à Moïse la loi naturelle. Dans l'Ancien Testament, nous avons bien sûr la première étape qui est celle de la création et les 11 premiers chapitres de la Genèse ont déjà des éléments de prescription de Dieu à l'égard du premier couple humain. Je lis au début de Genèse 2. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Parole de Dieu à Adam. Premier précepte positif qui exprime la volonté de Dieu. Nous le savons, rapidement est intervenu la transgression de ce commandement et l'entrée de la mort dans le monde. Dès l'intervention de cette rupture, l'homme n'est pas laissé par Dieu sans loi. Il existe pour lui une règle morale que Dieu rappelle à Caïn. Vous connaissez ce texte. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère ? Et pourquoi ton visage est si sombre ? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu agis mal, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Mais la génération de cette époque viole et de plus en plus les éléments qu'il connaît de la loi de Dieu. Et nous avons cette constatation terrible. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Il y a aussi des préceptes religieux donnés à Noé avec l'alliance divine qui caractérise l'époque de Noé. Voici quelques préceptes donnés à Noé. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture au même titre que les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Toutefois, dit Dieu à Noé, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang à vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque le répandra, que ce soit un animal ou un homme. Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Vous reconnaissez là un prélude bien antérieur au commandement « Tu ne tueras point ». Suivant l'attitude des êtres humains à l'égard de cette loi embryonnaire, les hommes sont déclarés justes ou mauvais, et ils sont approuvés ou condamnés par rapport à leur conduite. Si nous nous référons à des indications du Nouveau Testament, cette étape de l'histoire du salut est rappelée par l'apôtre Paul à plusieurs reprises et en particulier dans la lettre aux Romains. En effet, Le régime religieux que représente cette prescription, c'est le régime religieux sous lequel se trouvent toutes les nations païennes, les nations qui sont en dehors des deux régimes, de la loi ancienne et de la loi nouvelle. Toutes les nations païennes sont sous cette prescription, sous ce régime de la loi naturelle. Si Dieu a laissé les nations païennes suivre leur propre voie, comme l'apôtre Paul le dit à Athènes, il a voulu qu'ils cherchent Dieu comme en tâtonnant durant le temps de leur ignorance. Mais ces nations, toutes les nations, ne sont pas pour autant sans connaissance de sa volonté. Et c'est ça le point important pour notre sujet. La loi se révèle aux païens par l'intermédiaire de leur conscience. Et nous rappelons ce que nous dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 2. Quand les païens, sans avoir la loi, font naturellement ce qu'ordonne la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, eux qui n'ont pas la loi. Ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leur jugement intérieur qui, tour à tour, les accuse et les défendent. C'est sur cette base que Dieu juge les païens et les condamne. Mais à la source de ces fautes morales, l'apôtre Paul dénonce le péché religieux qui révèle la vraie nature de la désobéissance à la loi, connaître Dieu sans lui rendre hommage. Vous connaissez ce texte, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Quand on le considère dans ses œuvres, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié, honoré comme Dieu. Après le régime de la loi naturelle, nous abordons Moïse et la loi ancienne. Le peuple d'Israël est un peuple mis à part des nations. Et ce peuple de l'Ancien Testament a été placé par Dieu sous un autre régime, celui d'une loi positive révélée par Dieu lui-même à Moïse. Cette loi se présente sous des formes diverses. Elle est tout entière contenue dans les cinq premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque. L'histoire qui retrace le dessein de Dieu des origines à la mort de Moïse comporte des textes législatifs qui sont répartis dans les cinq livres. Ils ont pour cadre la création, l'alliance de Noé, l'alliance d'Abraham, l'Exode, l'alliance du Sinaï et les séjours au désert. Et ces textes sont répartis tout au long des cinq livres. Bien entendu, il y a au cœur le décalogue. Mais quand on parle de la loi, c'est pas seulement le décalogue, c'est l'ensemble de ses prescriptions. Une telle masse de législation renferme des matériaux de tous ordres, car la Torah règle la vie du peuple de Dieu dans tous les domaines. Des prescriptions morales, particulièrement saillantes dans le décalogue, rappellent les exigences fondamentales de la conscience humaine. Des prescriptions juridiques, dispersées dans plusieurs codes, règlent le fonctionnement des institutions, les institutions civiles, familiale, sociale, économique, judiciaire. Des ordonnances cultuelles, enfin, précisent ce que doit être le culte d'Israël, avec ses rites, ses ministres, ses conditions de fonctionnement et toutes les règles à observer. Même variété dans la formulation littéraire de ces lois, D'où le fait que nous avons plusieurs termes pour les définir. Nous avons les appellations comme enseignement, comme témoignage, comme précepte, commandement, décision ou jugement, parole, volonté et voix de Dieu. Diversité donc de cette loi et de ces textes législatifs. Quel est le rôle de la loi dans l'Ancien Testament ? La loi est en rapport intime avec l'alliance que Dieu a nouée avec son peuple. Quand, par l'alliance, Dieu fait d'Israël son peuple particulier, il joint à cette élection des promesses, nous l'avons lu dans un des textes précédents. Des promesses dont la réalisation dominera l'histoire qui va suivre toute cette révélation de la loi. Mais Dieu pose aussi des conditions. Israël devra obéir à sa voix et observer ses prescriptions. C'est aussi ce que nous avons lu tout à l'heure. Faute de quoi, les malédictions divines fondront sur lui. Et vous connaissez le fait important que pour l'entrée du peuple dans le pays de Canaan, Dieu va leur demander de proclamer d'un côté les bénédictions qui sont attachées à l'obéissance à la loi de Dieu et de l'autre côté les malédictions qui sont attachées à la désobéissance dans les deux montagnes qui se font face, le mont Ebal et le mont Garizim. La loi divine est donc une pièce maîtresse de l'économie religieuse qui prépare Israël à la venue du salut. Ces exigences même, pour dures qu'elles paraissent, sont en réalité une grâce, car elles visent à faire d'Israël le peuple sage par excellence. Nous avons dans le livre du Deutéronome ce texte qui le dit de façon très claire. Parole de Moïse au peuple. Vous le savez, je vous ai enseigné les commandements et les lois comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous y obéissiez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Obéissez-y et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent. Sage et intelligent aux yeux des peuples, ils en entendront parler et ils s'écrieront : il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. Où est en effet la nation, même parmi les plus grandes, qui a des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons ? Et quelle est la grande nation qui a des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui. Une grâce de Dieu que d'avoir cette loi. Le peuple est reconnu quand il la met en pratique comme un peuple sage par excellence. Ce faisant, le peuple apprend. Il apprend la sainteté, car Dieu lui a demandé d'être saint comme lui-même est saint. La Torah, la loi, s'est développée avec le temps. Et vous savez que juste avant l'entrée dans le pays de Canaan, par tout ce que nous apprend le Deutéronome, nous savons qu'il y a eu la répétition de la loi et des prescriptions très précises qui se sont manifesté à ce moment-là pour que le peuple sache comment se conduire lorsqu'il sera installé dans le pays de Canaan. Le décalogue et le code de l'Alliance sont repris et amplifiés par le Deutéronome, qui montre dans l'amour de Jéhovah, de Yahvé, de l'Éternel, le premier commandement auquel se ramènent tous les autres commandements. Nous voulons maintenant considérer comment Israël s'est positionné devant la loi. Tout au long de l'Ancien Testament, la loi est partout présente. Les prêtres sont chargés de l'enseigner. Les prophètes, hommes de la parole poussés par l'Esprit de Dieu, exhortent le peuple à la pratiquer et le commandement lorsqu'il s'en éloigne, et le condamne, pardon, lorsqu'il s'en éloigne. C'est là la fonction principale des prophètes. Rappeler la loi de Dieu, en souligner la nécessité de l'appliquer et condamner ceux qui s'écartent de cette loi. Mais finalement, c'est le don suprême de l'amour pour la loi de Dieu qui révèle l'amour pour Dieu. Et là, nous avons aussi ces textes que nous connaissons dans l'Ancien Testament. L'admiration que les poètes qui ont écrit les psaumes manifestent à l'égard de la loi de Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle nous redonne vie. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elles donnent la sagesse. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides. Ils donnent du discernement. Les décrets de l'Éternel sont vrais. Ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. Amour pour la loi de Dieu que nous avons aussi tout au long du psaume 119, bien connu pour cela. Cet attachement à la loi de Dieu fait la grandeur du judaïsme. Pourtant, cet attachement à la loi de Dieu comporte deux dangers. Le premier est de mettre sur le même pied tous les préceptes religieux, les préceptes moraux, les préceptes civils et les préceptes cultuels, sans les ordonner correctement autour de ce qui devrait toujours être le cœur, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Ainsi, le premier danger de cet amour, de cet attachement à la loi, c'est qu'il dérive en légalisme tatillon et livré aux subtilités des casuistes. Vous connaissez les débats de Jésus avec les scribes en particulier, qui étaient les spécialistes de la loi. Si la loi ou l'amour de la loi dérive de cette façon, les hommes en arrivent à être chargés d'un joug impossible à porter. Et l'apôtre Paul le rappelle aussi lorsqu'il débat au chapitre 15 des Actes. C'est un joug que ni nous ni nos pères n'avons pu porter. Le second danger, et plus radical encore, c'est de fonder la justice de l'homme devant Dieu, non sur la grâce divine, mais sur l'obéissance aux commandements et la pratique des bonnes œuvres. Chose qui ensuite ont reçu l'ajout de toute la tradition, comme si l'homme était capable de se justifier par lui-même. Pour finir le parcours dans l'Ancien Testament, nous devons relever quelque chose d'essentiel, c'est que justement l'Ancien Testament lui-même attestait qu'au dernier temps, avec l'Alliance nouvelle, la loi subirait elle aussi une profonde transformation. Ce qui est affirmé, c'est que c'est le rapport des hommes et de la loi qui sera modifié. Il ne s'agira plus seulement d'une loi extérieure à l'homme, gravée sur des tables de pierre, mais c'est une loi qui sera écrite au fond du cœur, au fond de chaque cœur, de sorte que tous aient la connaissance de Jéhovah, qui manquait au peuple de l'ancienne alliance. car les cœurs aussi seront changés sous l'impulsion intérieure de l'Esprit divin. Et nous avons ici le texte de Jérémie et celui d'Ézéchiel que je vous rappelle. Des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et celui de Juda. Voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça, c'est Jérémie. Et dans Ézéchiel, je vous donnerai, dit Dieu, un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur, dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Voilà l'annonce prophétique de l'Ancien Testament. Telle sera la loi nouvelle que le Christ va apporter dans le monde. Et nous abordons maintenant Jésus et la loi nouvelle. Jésus commence d'abord par se situer par rapport à la loi ancienne. Et à l'égard de la loi ancienne, l'attitude de Jésus est nette mais nuancée. S'il s'oppose avec force à la tradition des anciens, il n'en va pas de même pour la loi. Tout au contraire. Il récuse cette tradition parce qu'elle conduit les hommes à violer la loi et à annuler la parole de Dieu. Mais dans le royaume, la loi ne doit pas être abolie, elle doit être accomplie, et jusqu'au dernier iota, dit Jésus. Et Jésus lui-même observe la loi. Mais en annonçant l'évangile du royaume, Jésus inaugure un régime religieux radicalement neuf. La loi et les prophètes ont pris fin avec Jean-Baptiste. Le vin de l'évangile ne peut pas être versé dans les vieilles outres du régime du Sinaï. En quoi consiste donc l'accomplissement de la loi que Jésus apporte ici-bas ? Tout d'abord, en une remise en ordre des divers préceptes. Cet ordre est fort différent de la hiérarchie des valeurs que les scribes ont établie, négligeant le principal, justice, miséricorde, fidélité, pour sauver l'accessoire, la dîme de la nette, de la menthe et du cumin. Vous connaissez ces textes. Jésus commence donc d'abord par redresser cet ordre qui avait été tordu. La règle de conduite qu'on observe dans le royaume est une loi de perfection, à l'imitation de la perfection de Dieu. C'est évidemment un idéal impraticable si on le mesure à la condition actuelle de l'homme. Aussi bien Jésus apporte en même temps que cette loi, un exemple entraînant et une force intérieure qui permettra de l'observer. Bien entendu, c'est la force de l'esprit. Lorsque viendra l'esprit de sainteté, dit l'évangéliste Jean, c'est Jésus bien sûr qui parle, lorsque viendra l'Esprit de sainteté, il vous fera accéder à la vérité tout entière. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et finalement, la loi du royaume se résume dans le double commandement déjà formulé qui prescrit à l'homme d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Tout s'ordonne autour de cela. Tout en dérive, tout en découle. C'est la loi et les prophètes. Moïse s'efface maintenant dans le royaume. Il n'y a plus qu'un seul docteur, qu'un seul enseignant. C'est le Christ. Les hommes doivent écouter la parole du Christ et la mettre en pratique. L'écouter et la mettre en pratique, c'est ainsi qu'ils feront la volonté du Père. Matthieu 7. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père, dit Jésus. Faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ainsi, tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée car ses fondations étaient sur le roc. Nous abordons la dernière partie en considérant Paul et les autres apôtres, ce qu'ils disent par rapport à la loi et ce que nous recevons en tant que préceptes de la loi pour les chrétiens. La loi ancienne dans le dessein du salut reste une loi sainte. La loi est sainte et spirituelle. Elle est un des privilèges d'Israël. Mais par elle-même, la loi est impuissante à sauver l'homme charnel vendu au pouvoir du péché. Même si nous n'envisageons la loi que sous son aspect moral, la loi ne fait que donner la connaissance du bien, non la force de l'accomplir. La loi ne fait que donner la connaissance du péché, non le pouvoir de s'y soustraire. Au lieu de délivrer les hommes du mal, la loi les y enfonce. Elle les voue à une malédiction dont seul le Christ peut les arracher, en prenant cette malédiction sur lui. Et nous lisons ce que l'apôtre Paul en dit dans la lettre aux Galates. Les pratiquants de la loi sont tous sous le coup de la malédiction, puisqu'il est écrit « Maudit soit quiconque ne persévère pas dans l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs évident que par la loi, nul n'est justifié devant Dieu, puisque celui qui est justifié par la foi vivra. Or la loi, c'est un autre régime que celui de la foi. Pour elle, celui qui accomplira les prescriptions de cette loi en vivra. Christ a payé pour nous. Christ a payé pour nous délivrer de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous. Christ a payé pour nous délivrer de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Cela pour que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ, et qu'ainsi nous recevions par la foi l'Esprit, objet de la promesse. L'Écriture a tout soumis au péché dans une commune captivité, afin que par la foi en Jésus-Christ, la promesse soit accomplie pour les croyants. Avant la venue de la foi, nous étions gardés en captivité sous la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car tous vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Voilà le cheminement jusque à cette étape finale de la délivrance. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi du Sinaï. L'Esprit de Dieu est venu. Il est venu graver la loi dans notre cœur. Et il fait cela en répandant dans nos cœurs l'amour. La mise en pratique de la loi, en fait, en nous, est un fruit normal de l'Esprit. Nous sommes à la fois sous la délivrance de la malédiction, sous la délivrance de l'emprise ou de l'obligation de la loi. Et nous sommes dans le régime de l'amour divin répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est la loi nouvelle qui réalise la promesse de cette alliance inscrite dans le cœur. C'est pour cela, et c'est dans ces derniers mots que je voudrais conclure ma prédication et préparer le partage du pain et du vin, c'est dans cette ligne-là que l'apôtre Jacques parle de la loi et la qualifie de loi parfaite, de loi royale et de loi de la liberté. Trois expressions magnifiques sous la plume de l'apôtre Jacques pour qualifier le nouveau régime dans lequel nous sommes en Jésus-Christ. Loi parfaite, loi royale, loi de la liberté. Libérés non seulement du péché, de la contrainte, mais portés par l'amour du Seigneur à une harmonie de volonté avec ce qui plaît au Seigneur. Pourquoi nous faisons ce que le Seigneur demande et ce qui lui plaît? Parce que nous l'aimons. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen.